IDFM Radio, le média valdoisien.
Et il est l'heure d'accueillir deux invités aujourd'hui sur IDFM Radio. Ils vont nous parler de leur retour d'expérience puisqu'ils sont partis à quelques jours près faire une belle et grande aventure différemment. Nous sommes tout d'abord avec Gwen. Bonjour.
Bonjour.
Gwen le prêtre qui est toujours sannoisien, c'est bien ça?
Tout à fait.
Avec son frère Tanguy et tous les deux, vous êtes partis faire le 4L Trophy. C'était le 19 février dernier, un raid solidaire au Maroc. A priori, tout s'est bien passé. Je ne vois pas de bobos, d'égratignures. Ça a été une formidable aventure, je suppose. Tu ne vas pas dire le contraire.
Ah ben non. j'ai très adoré cette aventure en tout cas.
C'était la première fois le 4L Trophy pour tous les deux?
Oui.
Et c'était un rêve qui remontait aussi à quelques temps en arrière.
Très longtemps.
Et je crois que c'est toi qui a proposé à ton frère de participer.
Oui.
Et il a dit oui.
Oui.
Heureusement. Aujourd'hui, tu as un joli t-shirt.
Merci.
C'est un cadeau, c'est en fait le pack que vous achetez peut-être pour participer au 4L Trophy.
Non.
Et on vous offre en quelque sorte ce t-shirt.
Alors on nous offre un t-shirt, c'était pas celui-là. On nous offre un t-shirt, c'était pas celui-là, mais celui-là c'était surtout un cadeau du coup de la copine de mon frère justement.
Ah, elle est, c'est elle qui a brodé et tout.
On a pris en fait par rapport à une photo et je crois que, enfin je sais plus si c'est.
Bon, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, c'est un joli t-shirt. Et nous sommes aussi avec Philippe Savajol. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes venu le 28 janvier dernier. Vous êtes toujours président du groupe Isospace qui se trouve à Boulogne. Hein.
Oui.
Et vous aussi, vous êtes parti avec votre vélo.
Voilà.
Pour rejoindre les Andes.
J'ai traversé les Andes de Santiago du Chili à Buenos Aires.
Donc
en,
vous êtes parti un peu plus loin.
Hein. Un petit peu plus loin.
Le Maroc, c'est un peu plus proche, mais.
Sans moteur.
Sans moteur, ouais. Ouais, tout à fait. Il fallait le faire et vous l'avez fait. Et vous aussi, vous êtes revenu. Ça va?
Ça va mieux maintenant. J'ai eu un petit coup de mou physiquement, mais ça va mieux. C'est reparti.
Ça a duré combien de semaines, de jours? C'était sur un mois, je crois. Hein.
C'était à peu près 3 semaines, ouais. Enfin, 3 semaines, mais on a passé quelques temps avant de partir pour s'accoutumer à la chaleur et ensuite pour se reposer un petit peu à Buenos Aires. Donc en fait, il y avait 12 jours de vélo.
Donc c'était début février.
Début février.
Et pour le 4L Trophy, Gwen, donc c'était plus court, hein. Ça durait une semaine et demie.
Oui, c'est ça.
Et avec donc Tanguy, ton frère, tu es parti affronter le désert marocain. Il n'y a pas eu trop de péripéties, trop de problèmes, pas de tempête de sable ou quoi que ce soit.
Tempête de sable, non. Après, à part la poussière dégagée par les autres 4L devant nous, mais bon. En soi, on a quand même eu pas mal de casses, bien sûr, enfin, surtout de petits problèmes techniques. On a eu notre carburateur qui s'est encrassé plusieurs fois à cause du sable et tout qui rentrait, donc obligé de le nettoyer plusieurs fois, mais sinon, pas d'autres soucis.
La casse, ça fait partie un petit peu du jeu, j'ai envie de dire aussi. Malheureusement, aucun véhicule n'échappe à ça.
Non.
Parce que ça monte, ça grimpe, il y a des cailloux sur la route, donc automatiquement, à un moment donné, le véhicule souffre.
Oui.
Et qui vous aide à réparer, c'est vous-même, mais il y a quand même des équipes qui sont tout autour pour vous épauler.
Alors oui, soit on se fait aider par notre équipage qui a la bonté de s'arrêter pour nous aider, ou alors on a une assistance mécanique justement qui est là pour nous soutenir.
Bah j'espère, il y a quand même de la solidarité, certains s'arrêtent ou pas?
Oui.
Et certains s'en fichent et ils tracent leur route.
Oui,
ils
oui,
font tout de toute façon à faire un monde. Mais...
Après, ça dépend des gens. Si jamais ils connaissent pas en mécanique, ils vont pas forcément s'amuser à s'arrêter. Après, on en a quand même quelques-uns qui n'y connaissaient pas forcément quelque chose, mais qui s'arrêtaient quand même pour voir s'ils pouvaient peut-être apporter une aide ou autre.
Vous voulez de l'eau, vous voulez, je sais pas, non? Éventuellement, comme ils sont peut-être pas très mécano, ils proposent autre chose comme aide?
Non, ils essaient quand même de voir le problème avec nous en tout cas.
Des problèmes aussi particuliers, Philippe, le vélo, les pneus, la chaîne.
Alors, une seule crevaison sur 2200 km.
Ah, ça va?
Ouais, c'était bien.
Et c'était au bout de combien de jours, ça?
Je sais plus, je crois que c'était au milieu à peu près, ouais. Après, quand on avait quitté Mendoza. Je suis parti avec 2 trains de pneus, alors pour les spécialistes, hein, 25 pouces et 32 pouces, parce qu'il y a une partie qui était sur piste, hein, on appelle du gravel. Le rendement n'est pas le même, on est 32 et 25 pouces, donc c'est plus intéressant d'être sur 25 pouces. ça, c'est, ça tire moins sur les jambes. Et aucun problème sur le vélo, qui était bien révisé avant. Et puis, pas de problème de jambes non plus, c'était agréable ça.
Et les conditions météorologiques, des fois ça allait, des fois ça allait pas.
Il y avait une constance, c'est qu'il faisait chaud. C'est dans l'hémisphère sud, c'est inversé, vous savez, par rapport à chez nous. Et donc, c'était l'été. Et quand on est parti de Santiago, il faisait, bon, c'était tenable, c'était 35 degrés. Bon, quand on arrive de Paris, on part moins 3 et on arrive là-bas. Donc, il faut qu'il y ait 2-3 jours pour s'accoutumer à la chaleur. Mais bon, c'est pas tellement gênant. On a eu un petit peu froid quand on est monté à 3500 mètres à la Concagua, mais c'est très furtif, donc ça pose pas de difficulté. Mais le jour le plus agréable, le jour le plus long, c'est le cas de le dire, hein, c'était sur Roadbook, c'était le jour le plus long de toute manière. Il fallait faire 250 km en partant de Mendoza, après avoir descendu la cordillère des Andes. Et là, il a fait, en température ambiante, 45-46 degrés toute la journée. Et donc sur le vélo, avec la réverbération, moi j'avais 51 sur le compteur pendant 220 km.
Donc cette chaîne de montagne, vous l'avez par moments affrontée?
Bien sûr.
Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
Et puis j'ai fini par descendre après, oui, c'est ça qui même. Est agréable. Ouais.
Ouais, mais ça peut être plus dangereux de descendre que de monter. Non,
la descente sur la Concagua était sur une piste, enfin la première partie de la descente, les 10 premiers kilomètres, c'était une piste, c'est du gravel. Donc là, effectivement, sur un véloroute, moi je suis parti en véloroute, c'est un petit peu rock'n'roll. J'avais pas voulu prendre un vélo gravel, ils sont plus lourds, et puis j'en avais pas, donc je suis parti sur un véloroute classique. Bon, là ça tape. Là ça tape, il faut faire très attention. Moi j'ai pris mon temps et voilà, ça l'a fait comme ça. Mais c'est tellement agréable, c'est tellement beau, on a la tête qui se balade, on a les yeux qui vont partout, même s'il faut regarder théoriquement devant soi, surtout quand on descend, mais c'est difficile, c'est tellement beau.
En fait, c'est se concentrer effectivement sur la route, mais aussi découvrir, observer la faune, la flore, sans perdre non plus le fil conducteur, essayer pas d'aller vite, mais de pas non plus trop traîner et de faire ça en 3 semaines.
C'est ça.
Donc il y a plein de choses qui passent par la tête finalement.
Oui, puis c'est une évasion ou c'est une découverte intérieure en même temps, parce que c'est un petit peu le geste répétitif, le vélo, et puis quand on a des si beaux paysages, l'esprit finit par s'évader. Et même si j'ai vu un lama une fois, il y a des lamas sauvages, ça c'était sympa. On n'a pas vu de condor, peut-être qu'on allait trop vite, on les a pas vus.
Mais il n'y en a plus peut-être, avec le réchauffement climatique, ils sont autre part.
Ils sont plus partis. Mais bon, il faut rester concentré parce que la plupart du temps on est sur route. Alors bon, il n'y a pas énormément de circulation, mais il peut y en avoir.
Parce que vous prenez quand même des chemins. De toute façon, oui, c'est assez montagneux, donc c'est
seulement 10% était gravel. Ouais.
D'accord. Ouais. Il peut y avoir des véhicules, quel type de véhicules, des gros véhicules ou des véhicules
Alors des camions, des gros camions montés à Aconcagua, parce que là c'est la frontière du Chili, entre le Chili et l'Argentine, donc c'est un point de passage. Il y a une douane d'ailleurs. Hein, on a dû passer la douane, c'était assez rigolo. Et là, vous avez des gros camions qui transportent des marchandises. Et puis ensuite, en Argentine, c'est plutôt des gros pick-up, type américain. Mais ils n'ont pas l'habitude de voir des cyclistes.
Ah oui.
Donc il faut vraiment faire très attention. Et les routes sont un petit peu défoncées, donc bon, il faut faire attention à ça également.
On rappelle, Philippe, pourquoi vous êtes parti faire ces 3 semaines dans les Andes?
Je ne sais pas. Je crois que j'en avais besoin. Je crois que
c'était pour vous connecter aussi un petit peu avec votre entreprise et puis revenir en pleine forme.
Ouais, c'est ça en fait. Quand je dis je sais pas, non, je sais très bien en réalité. J'avais besoin de l'entreprise est arrivée, Isospace est arrivée à un point où je voulais être certain que l'entreprise pouvait tourner sans moi et faire confiance aux gens qui la faisaient tourner. C'était une preuve de confiance réciproque d'ailleurs.
Parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, pardon, j'ai toujours eu du mal à déléguer ou à...
Ouais, en réalité, non. Enfin, peut-être que mes collaborateurs vous diront des choses différentes. Mais moi, j'ai pas cette impression, en tout cas. Mais j'ai construit cette entreprise de 5 personnes à 100 personnes maintenant, pratiquement, en 17 ans. Et ouais, j'ai toujours eu l'impression d'être la tête dans le guidon, hein, pour reprendre une expression cycliste. Et là, je crois que c'était important pour tout le monde de sortir la tête du guidon et puis que je trouve des nouvelles respirations, des nouvelles idées, que je fasse le point. On n'a pas souvent le temps ou la possibilité de faire le break, le point, quand on est chef d'entreprise, certainement d'autres personnes aussi, parce qu'on est vraiment tout de suite et toujours dans l'opérationnel, avec des problématiques à régler, du matin au soir, enfin, tout le monde connaît ça. C'était salutaire.
On rappelle, c'est quoi le but de l'entreprise Isospace aussi, c'est d'aménager des espaces.
Voilà, on aménage des espaces inspirants, que ce soit des bureaux, des hôtels, des restaurants, et on est menuisier également. Donc on les dessine et on les fabrique sur place.
Du coup, ça a été un bon break, de la bonne fatigue aussi, ça a été intense, et des idées aussi peut-être plus claires sur l'avenir avec Isospace ou sur d'autres points aussi.
Non, mais c'est important de prendre de la distance par rapport aux choses. Comme je le disais, on n'a pas souvent ce luxe de prendre de la distance par rapport aux choses, parce qu'on est tout de suite pris dans le quotidien. Et moi, ça ne m'était pas arrivé depuis 17 ans. D'avoir du recul comme ça, d'être en break total ou de ne pas avoir le téléphone qui sonne.
Fait point sur c'est de se reconnecter aussi, on l'entend beaucoup, à la nature, à l'humain.
Ah, clairement. La nature, il n'y a que ça. Hein. Quand vous traversez la cordillère des Andes, il n'y a pas beaucoup de grandes villes à traverser. Et les paysages sont tellement différents de ceux qu'on a l'habitude de voir que je ne dirais pas qu'on est sur Mars, mais il y a un petit peu de ça, je crois.
Gwen, c'était. Quoi, l'envie, le but aussi de cette expérience, de relever un défi, de se dire nous aussi on peut le faire, ce 4L Trophy, ce Raid Solidaire au Maroc, aider aussi en quelque sorte les autres si on peut le faire.
Oui, tout à fait. C'était aussi surtout une grande découverte pour nous, enfin découvrir les paysages du Maroc qui étaient quand même magnifiques. De faire une aventure comme ça, comment dire. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. Enfin...
Il y a une charge d'adrénaline aussi. Il y a beaucoup d'émotions en voyant les autres équipages, en voyant la population sur place, ces paysages. On se dit, mais on habite en région parisienne, on a beaucoup de bâtiments, même s'il y a de la verdure. Là, on a l'impression d'être, peut-être pas au paradis, j'exagère, mais d'être un petit peu déconnecté et de voir autre chose.
Oh, bah oui, parce que on a plus vu des paysages, comment dire, plus on voyait plus le désert qu'autre chose. On passait dans quelques petits villages. Après, c'était vraiment très court. À chaque fois qu'on passait dans des petits villages qui étaient beaux, c'était quand même que les enfants qui connaissent un peu le 4L Trophy parce qu'ils voient ça chaque année, du coup, qui nous faisaient coucou à chaque fois qu'on passait. Enfin, il y a quand même une petite, comment dire.
Toi et ton frère, vous avez été souvent en contact justement. En communion, en quelque sorte, avec ses enfants, avec la population.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait, on peut les retrouver certains dans des stations-service, pardon, pour qui demandent toujours des petits stylos, des trucs comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'on ramène des fournitures scolaires. Même si, bien sûr, le plus gros qu'on dépose, c'est à Tistam Mersouga.
Eh bien, super. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Nous sommes toujours avec Gwen, qui a participé à la 28e édition du 4L Trophy Raid Solidaire au Maroc. Le départ, c'était le 19 février. Où ça, vous êtes parti? D'où?
De Biarritz.
De Biarritz. Et nous sommes toujours aussi avec Philippe Savajol. Tous les deux, vous n'avez pas du tout le même âge. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas d'âge pour relever tel ou tel défi. Hein. Hein, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Bah, si, il y en a pour le 4L Trophy, parce que moi, je ne pourrais plus le faire maintenant.
Bah oui, parce que c'est jusqu'à 30 ans, hein, le 28. Le 28, pardon. Ouais. Enfin, ils auraient pu avoir, il y a quand même pas 30 ans. Et puis là, c'est un autre type de défi aussi, très personnel. On verra si c'est inspirant pour Gwen. Peut-être que d'ici quelques années, il partira tout seul ou avec son frère, pourquoi pas, à vélo, faire comme ça une grande et belle aventure. Donc nous sommes aussi toujours avec Philippe Savajol, président du groupe Isospace. Et qui lui a fait 3 semaines. J'ai cru que c'était pas un mois quand même à la base.
Non, c'était 3 semaines.
Non, c'était 3 semaines. Ouais. Donc début février, traverser la cordillère des Andes, ça devait être magique et magnifique. On aurait voulu quand même être sur son vélo quand même à Philippe pour voir petite souris ou un petit moustique pour vivre ça de très très près. Non.
Oh bah c'est sûr. C'est comme une autre expérience comparée au 4L Trophy. Après. Peut-être plus tard, on sait pas. Hein.
Et bien, tout de suite, on continue à échanger avec vos deux invités sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec Gwen, jeune Valdoisien de Sannois, qui a participé à la 28e édition du 4L Trophy. Le départ, c'était le 19 février à Biarritz. Hein. Toutes les équipes se sont donné rendez-vous à Biarritz. Donc, vous avez pris le bateau?
Oui, tout à fait.
Et après, vous faites combien de traversées avec le bateau? Ça dure combien d'heures?
Oh, on en avait fait... Il y avait 3 traversées de bateau, en tout cas. ils ont décidé de séparer au mieux par rapport au numéro d'équipage. Et après, on en avait pour quoi, à peu près 2 heures.
Et la 4L, vous faites comment? Vous partez de Saint-Nois avec la 4L pour rejoindre Biarritz?
Oui.
Oui. Et ça va, elle tient le coup, elle est en pleine forme?
Bah oui, on est arrivé au village départ sans aucun problème.
Je crois qu'il y a une histoire avec ton grand-père par rapport à la 4L, ou je ne sais plus. Non, du tout. Non. Je croyais que c'était justement une transmission. La 4L, vous l'avez eue comment?
Par un particulier à Orléans.
D'accord. Ah ouais, vous avez en plus fait le voyage jusqu'à Orléans pour récupérer cette 4L que vous avez remis un petit peu au goût du jour aussi.
Oui.
Vous aviez eu pas mal de sponsors. Ça avait été aussi au niveau des finances.
Pour nous, niveau sponsor, on a été quand même pas trop. On n'a pas eu trop de sponsors. On en a eu que 3 qui ont quand même eu une bonne participation, on va dire. Donc après, voilà. Après, on n'était pas non plus. Disons qu'on était. On n'était pas les seuls, parce qu'il y en avait d'autres équipages qui avaient très peu, voire même pas du tout de sponsors aussi. Donc d'un autre côté, je me disais qu'on ne faisait pas trop tâche.
Vous êtes revenu quand du 4L Trophy?
Alors,
vous étiez de retour à Saint-Nois quand du coup?
Alors du coup déjà, on est arrivé donc à Marrakech le vendredi 31 février, je crois que c'est 31.
Il n'y a pas de 31 février, ça n'existe pas. Le mois de février, ça va jusqu'au 28.
Je suis fatigué, moi.
Mais c'est pas grave. Il y a 31 janvier, mais après le mois de février.
Excusez-moi.
Février, c'est, je crois que c'est 27 ou 28. Hein.
Oui, c'est ça. Bref, on était reparti.
Donc c'est fin février.
On était reparti le 2 mars de Marrakech, parce qu'on avait une petite journée, on avait une petite soirée de clôture à Marrakech. Donc on est reparti le 2 mars. Et. En remontant, on a dû arriver, à mon avis, le mardi. On était de retour, le 4 mars.
Et les journées, elles se passaient un petit peu, en gros, comment? C'était 2-3 heures de route dans le désert à chaque fois?
Ça dépendait. Si tout se passait bien, oui, peut-être 2-3 heures. Enfin, ça dépendait des circuits qu'on avait, parce qu'il y avait des circuits, des parties qui étaient quand même beaucoup plus longues. On avait fait des trajets de 500, voire 300 km. Ouais, on avait deux petits trajets, c'était deux petites boucles de 100 km à peine dans le désert. Ça dépendait vraiment de la distance à faire et puis du fait qu'on rencontre pas de problème derrière. Quoi.
Et le soir, vous avez pu vous poser dans des hôtels, dans des riads, dans des camps parce que la nuit, il n'y a pas de. Vous ne roulez pas la nuit. Hein.
C'est ça. Ils interdisent de rouler la nuit pour des raisons de sécurité. Mais non, le soir, on les passait dans des bivouacs.
D'accord.
Donc on ramenait notre tente et tout, on remontait chaque soir, et tous les matins, on leur défaisait.
Et le soir, c'était un peu des fois folklorique, comme vous étiez entre jeunes?
Oui, il y avait quand même de l'animation, disons, mais après, il y avait quand même un couvre-feu à un moment.
Ah d'accord, ok. Tout le monde était raisonnable et couché à minuit.
C'est ça. Je pense, parce que moi j'étais couché un peu avant quand même.
Et très sage.
Vous étiez combien, tu sais, à peu près de participants pour cette dernière édition du 4L Trophy?
Alors on était 1020 voitures au départ pour du coup 2040 personnes.
1000 et après ça donne 2000.
Voilà.
Comment ça se fait?
Parce qu'on est forcément 2 par voiture à chaque fois.
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y en a qui arrêtent en cours de route ou pas?
Oui.
Oui.
Enfin, je sais pas.
Pourquoi? Ils sont fatigués?
Non, parce qu'ils peuvent plus tout simplement continuer avec leur voiture. On en avait rien que de Biarritz jusqu'au sud de l'Espagne. On était 1020 au départ, on est arrivé à 1003 en Espagne.
Ah oui.
Au sud de l'Espagne.
Et il y a autant d'hommes que de femmes aussi qui participent?
Oui.
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 C'est Philippe Savageol qui est toujours aussi avec nous sur EDFM Radio.
Si je pouvais te poser une question, c'est, je sais pas si c'est une question rigolote, mais. Qu'est-ce que ça t'a appris? S'il y a une chose que tu as appris là, sur ce trophée, c'est quoi?
C'est principalement la solidarité, l'entraide entre tout le monde, justement.
D'accord.
Que peu importe d'où tu viens, tu peux quand même apporter quelque chose, même si tu t'y connais pas forcément, tu peux quand même donner quelque chose, quoi.
Et Philippe, vous, la fatigue, à un moment donné, elle s'est énormément ressentie. Vous vous êtes dit, j'arriverai pas à faire ces 3 semaines ou pas? Il n'y a jamais eu ce doute d'abandonner?
En réalité, non. Je l'ai ressenti ensuite au retour en France, un gros coup de mou. Mais non, sur le vélo, je ne l'ai pas ressenti. Alors peut-être c'est l'excitation d'aller jusqu'au bout, le fait qu'on soit un petit groupe, hein, il y en a une dizaine, donc il y a une émulation, il y a effectivement la même chose, la solidarité qui se crée. On laisse personne sur le bord de la route, donc on s'arrête quand il y a quelqu'un qui a un problème, on le dépanne, on repart, on se remonte le moral quand il y a des moments plus difficiles.
Pourquoi vous avez vu d'autres personnes aussi?
On est parti à 10, on s'est retrouvé à 10 du monde entier, là, sur place, et voilà.
Et vous avez vu d'autres qui ne faisaient pas forcément partie du groupe à vélo, traverser aussi les Andes, en tout cas escalader, faire des choses aussi comme vous?
À l'aéroport, en arrivant, on a croisé quelqu'un qui en revenait. Enfin, moi, je l'ai croisé, on n'est pas arrivé sur les mêmes vols, mais moi je l'ai croisé, j'en ai parlé. On a rencontré des gens qui faisaient des treks à pied. Mais le plus enrichissant, c'était d'essayer, parce que moi, je ne parle pas espagnol, malheureusement. C'est une des résolutions que j'ai prises, c'est d'apprendre l'espagnol. Mais le plus enrichissant, c'était de rencontrer des gens, des locaux
mais
sur place.
Mais l'anglais, vous maîtrisez quand même un peu, non, mais sur place, ils ne comprenaient pas.
À Buenos Aires, l'anglais, ça fonctionne très bien, mais
plus on va loin, c'est difficile.
Bon, on parle avec les mains, et puis on arrive toujours à se faire comprendre. C'est ça la grande richesse en fait, c'est que on découvre des ressources qu'on pensait pas être possible, on mobilise des leviers qu'on n'avait même pas soupçonné pour aller au bout de l'aventure.
Philippe, le 4L Trophy, je sais c'est plus pour vous, c'est plus pour moi non plus, mais disons qu'il n'y a pas d'âge pour participer au 4L Trophy, partir comme ça dans le désert marocain, oui?
Ah, je le fais tout de suite. Oui.
Et toi, faire ça à vélo, est-ce que...
Pourquoi pas,
avec un entraînement ou pas? Oui,
un peu quand même.
Il faut quand même de toute façon se préparer un petit peu psychologiquement, un petit peu sur tous les plans. Il faut
être préparé à souffrir.
Bah, vous aimez le vélo aussi. De toute façon, c'est pas, vous faites pas du vélo juste pour aller là-bas. Hein.
Non, j'en fais souvent. C'est vraiment un sport que je pratique régulièrement. Mais il faut être prêt à souffrir. Je pense que c'est surtout ça, parce que physiquement, on n'est pas des athlètes, hein, on fait ça à notre rythme. L'idée, c'est d'arriver à l'étape le soir. Mais il faut être préparé à souffrir, savoir qu'il va y avoir des moments difficiles, des moments plus faciles. Bah, c'est un chemin de vie, en fait.
Gwen disait pas de route la nuit, parce que c'est par rapport au règlement du 4L Trophy. Vous êtes quand même...
Non, on a calculé pour des raisons de sécurité évidentes, on a calculé pour pas rouler la nuit. Mais on partait très tôt le matin.
C'est quoi très tôt?
On se réveillait à 5h du matin, 6h, 6h15, dès qu'il y avait la première lueur du jour, on était sur la route.
Et bien prendre aussi des boissons, de l'eau, surtout bien manger, des choses trop lourdes bien évidemment, mais quand même des féculents, de la viande, du poisson ou de fruits, de légumes.
Ouais, ça c'est le soir, mais à l'effort c'est du sucre. Il faut manger.
Et Gwen, toi, avec ton frère Tanguy, beaucoup de sucre, boire aussi, même s'il a fait moins chaud, j'ai l'impression, au Maroc que du côté de la Cordillère des Andes.
C'est sûr qu'il faisait beaucoup moins chaud, mais bien sûr, beaucoup boire, parce que, mine de rien, le soleil tapait quand même très fort. Donc, bien sûr, et puis après, on mangeait bien sûr des petits plats... lyophilisé qu'on prenait pour le midi, mais après...
Que t'avais préparé ici, oui. À Sanoa, avant, oui. De... C'est vrai?
Oui, parce que les repas le midi étaient c'était à nous débrouiller. Pour ce qui était du petit-déj et le repas du soir, c'était l'organisation qui nous donnait des plats, donc après...
D'accord, et c'était quoi comme type de plat? Ça allait?
Oui, ça allait, c'était surtout du local après, donc on a... Du couscous.
Du couscous, c'est mon rêve d'en manger. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Il était bon au moins?
Oui,
oui, normalement.
Oui.
C'était pas du couscous fabriqué en France qui est arrivé là-bas. Non, c'était du local avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est vrai que ça donne beaucoup de force. Hein. Les légumes, la semoule, c'est un plat réconfort en plus de partage. Donc vous étiez peut-être, je sais pas moi, plusieurs autour de ce couscous à chaque fois.
Oui, on avait un endroit justement pour le repas, puis on avait plusieurs tables de 8 personnes, et puis à chaque fois, on se mélangeait, ça nous arrivait d'être mélangés avec d'autres équipages justement. Donc.
Et t'as rencontré des jeunes aussi, un peu comme toi, en tout cas, vous vous êtes liés d'amitié avec des équipages?
Oui.
Oui. Des gens qui habitent ici ou pas très loin, ou en Île-de-France?
Alors, j'avais un pote qui l'a fait en même temps que moi, qui habite pas très loin.
Qui habite
sinon,
où? Tu sais plus où il habite.
Proche de Nanterre, je crois.
D'accord.
Après, les autres, c'était plus côté Bretagne.
Philippe, des connexions aussi sur place, peut-être, avec la population locale, même si c'était difficile, vous l'avez dit, au niveau du langage.
Oui, mais on est de passage, hein, on couche et puis on repart le lendemain matin. Mais les connexions, c'était avec les cyclistes que je ne les connaissais pas avant. On s'est rencontrés à Santiago avant de partir, essentiellement des Anglo-Saxons d'ailleurs et des Hollandais. Oui, on est toujours en contact.
Et tous ces souvenirs, toutes ces photos pour tous les deux, ces vidéos, je sais pas, vous les avez déjà partagées, je suppose que oui, mais est-ce que ça pourra faire l'objet d'une exposition ou d'une conférence? Est-ce que vous avez envie, en tout cas, de partager ça, Tanguy?
Non, Gwen.
Gwen, pardon, oui. Tanguy, c'est ton frère.
Oui. Non, là, je sais pas.
À Sanois, faire une expo ou pas? Non.
Peut-être, après, à voir, mais...
Bon, c'est pas en tout cas là...
C'est pas l'idée du moment, disons.
Oui, oui, parce que vous auriez très bien pu parler de tout ça, témoigner, et puis de proposer aussi à d'autres jeunes de le faire, puisque c'est une belle aventure solidaire.
Oui.
Philippe ?
Moi, j'aurais rêvé de faire une conférence là-dessus. Sur l'allégorie du voyage, sur l'allégorie de l'effort et du voyage et des ressources qu'on trouve quand on est en percussion avec la réalité, les problèmes qu'il faut régler. Moi j'adorerais faire ça, pas seulement sur la partie physique, parce que finalement elle est secondaire, je trouve.
Prochaine étape, prochaine aventure, Philippe, est-ce que c'est prévu cette année, dans 2 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il y a quand même ça quelque part?
Oui, bien sûr, il y a ça. Là, je prépare un truc, je ne sais pas si je vais arriver à le faire, mais j'aimerais traverser l'Afrique, en vélo toujours, d'est en ouest.
D'accord.
Voilà, c'est plus ambitieux, c'est presque 4000 km, et c'est pratiquement que du gravel. Donc c'est un petit peu plus difficile.
Et votre famille, ça va?
Oui, ça va, je crois.
Ils
ne
se sont pas trop inquiétés?
Non, ils étaient,
non. Ils étaient assez confiants.
Les réseaux passent, hein, on était en contact régulier, hein, tous les jours.
Et toi, Gwen, une autre aventure aussi, pourquoi pas? Qu'est-ce qui te tenterait?
Disons que dans 2 ans, on se relance dans le 4L Trophy avec mon frère.
D'accord.
Et autrement, non. Pas d'autant en vue.
Bon, bah c'est déjà pas mal. Merci en tout cas à vous deux d'être passés.
Merci beaucoup.
Bon
Merci.
Retour, Gwen Leprestre à Sanois. Donc, je le reprécise, tu as quel âge déjà ?
21 ans.
21 ans, je te donnais un peu moins, pardon. C'est pas grave. 4L Trophy, donc tu as participé avec ton frère Tanguy. C'était donc en février dernier, Red Solidaire au Maroc. Et nous étions avec Philippe Savajol, qui est le président du groupe Isospace à Boulogne et qui a participé, lui, à une traversée avec son vélo pour découvrir notamment la cordillère des Andes. Ça fait rêver, en tout cas, quand je sors ça de ma bouche, j'ai envie de découvrir aussi. J'ai peut-être pas envie de le faire comme vous l'avez fait, mais en tout cas, merci de nous faire voyager une nouvelle fois, puisque vous étiez déjà passés tous les deux en janvier dernier pour nous parler des préparatifs de ce voyage, et on est content de vous retrouver puisque vous gardez plein de beaux souvenirs et tout s'est bien passé. Bah, à une prochaine en tout cas.
Bien sûr.
Sur IDFM Radio et puis bonne continuation à vous deux. À
merci.
Bientôt.
Merci.
Ta muse t'a fait pleurer. Ta muse t'a soulevé le